Le premier sujet s'impose ce matin, le leadership de Justin Trudeau dans le cadre de la crise actuelle. Le blocus, évidemment, juste vous dire que le premier ministre de la Saskatchewan vient de convoquer pour aujourd'hui une rencontre téléphonique avec tous les premiers ministres du Canada et des responsables des territoires à propos des blocages parce qu'il n'est pas satisfait du leadership, en fait, exprimé par M. Trudeau depuis le début de la crise. Donc, ça veut dire qu'il y a comme une espèce de montée au Canada face à la façon dont le gouvernement actuel gère le tout.
Bien sûr, on l'a entendu de différentes façons. Je pense que tous les titres sont évocateurs. Tu sais, y a-t-il un pilote dans l'avion? Que fait le premier ministre? Le premier ministre est appelé à prendre ses responsabilités et assumer son leadership. Il n'y a pas grand monde qui a l'air de lui donner crédit pour l'approche qu'il a adoptée jusqu'à date. Et effectivement, c'est trop faible, c'est trop vaseux. L'approche de Blanchet, me semble, et a été reconnue comme tout le monde, comme une bonne approche de dire, OK, d'abord, on reconnaît qu'il y a un problème autochtone. On reconnaît que particulièrement la communauté Wet'suwet'en, c'est une communauté très particulière. Là. Il faut comprendre que la loi sur les Indiens a été votée avant que la Colombie-Britannique rejoigne le Canada. Donc, la communauté Wet'suwet'en a l'autorité sur son territoire, 22 000 km². Et ça lui a été reconnu par la Cour suprême en 1997. À partir de là, quand tu décides de passer un oléoduc à cet endroit-là, il faut que tu prennes des précautions qui n'ont peut-être pas pris. Il y a certaines précautions qui ont été prises. Il y a 620 millions de dollars de contrats qui ont été donnés aux communautés autochtones le long de l'oléoduc. Mais la communauté traditionnelle n'en voulait pas et ils sont pris avec un problème. Donc,
attends, juste que les autres le voulaient, mais pas les traditionnalistes.
Parce qu'il y a deux choses. Le conseil de bande, ça, c'est un truc qui est dans la loi sur les Indiens qui gère les relations entre l'État fédéral et les communautés. Les communautés traditionnelles se considèrent comme les défenseurs du territoire. Uniquement ça, c'est ça leur job, défenseurs du territoire. Puis eux, ils ont dit non, nous, on n'est pas d'accord. Alors, oui, il y a une petite négociation à faire, peut-être qui va plus loin que juste dire enlevez vos deux abris tempo puis vos chaises de pique-nique, puis ça ne devrait pas être si difficile que ça, puis un premier ministre devrait être capable de faire ça. Blanchet, là, l'affaire, je trouve, là-dessus. Et ça, c'est Cardinal qui le soulignait ce matin dans le journal. On dit, garde le blocage, là, entre nous, là, il ne pourra pas durer plus qu'une semaine encore. Là. Les problèmes d'approvisionnement vont se faire sentir. De toute manière, d'ici une semaine, il faut trouver une solution. Puis encore une semaine, c'est peut-être un peu long selon certains, mais du moins une semaine. Et alors, on lève le blocage à certaines conditions. La condition, c'est qu'ils vont pouvoir le rétablir si jamais la négociation va nulle part. Ça, c'est la bonne position. La position de Trudeau n'est pas bonne. Ceci étant dit, la sous-estimation complète à tous les niveaux du problème me frappe. Et puis, je reconnais ici une phrase de Maxime Laporte, là, de la Société Saint-Jean-Baptiste, de dire, c'est drôle, hein? Les souverainistes québécois qui se transforment en bons citoyens de la couronne puis en citoyen de la reine, en sujet de la reine quand vient le temps de parler des Indiens. Là, tout à coup, là c'est le Canada devrait intervenir, le Canada devrait foncer là-dedans, etc., etc. La situation est plus complexe que ça. La situation a commencé il y a 300 ans et elle se poursuit. Puis dès qu'on règle un problème de barricade, on oublie les Indiens. C'est fini. Fait qu'après ça, on dit, mais mettez pas de barricade, on va négocier. Ouais, mais dès que les barricades sont pas là, la situation dégénère.
S'il reste de l'homme d'État chez Trudeau, c'est maintenant qu'il va falloir qu'il nous le démontre. Parce qu'on fait face aujourd'hui à un conflit qui est au confluent probablement des deux legs que Justin Trudeau peut laisser après avoir été premier ministre du Canada. C'est-à-dire, dans un premier temps, la réconciliation avec les peuples autochtones et dans un deuxième temps, l'environnement. Ce qui est pas clair aujourd'hui, c'est quelles sont les velléités, c'est quoi les objectifs des traditionnalistes, de tout le pouvoir héréditaire. C'est quoi? C'est de s'assurer qu'on soit en mesure de faire une répartition adéquate des sommes importantes qui vont avoir été données pour laisser passer Coastal GasLink, ou c'est un rejet pur et simple d'un tuyau que certains qualifient dans ce coin-là de serpent noir qui descend de la montagne et qui créerait des enjeux environnementaux. C'est quoi? Il faut les entendre. Et ça, on les a pas entendus. C'est ce que je déplore vraiment. Parce que ce conflit-là, puis on en parlait hier, Luc, ce conflit-là, c'est quoi? Est-ce que c'est un conflit sur... Ça peut être les deux, mais est-ce que c'est un conflit aujourd'hui d'autorité morale, mais pas que morale, parce que tu y as fait référence, le jugement de la Cour suprême est clair là-dessus, c'est une autorité juridique aussi, mais est-ce que c'est un enjeu environnemental? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce pipeline-là, qui va avoir coûté 6,5 milliards, va ouvrir davantage la porte à une production en Alberta. Et aujourd'hui, moi, je ne comprends pas la position de Trudeau. Non, ni dans Trans Mountain, ni dans Gaslink. Parce que si on ouvre davantage les vannes, l'émission de GES au Québec va exploser. Mm-hmm. Alors, comment est-ce que... Puis on a fait référence à Stephen Guilbeault. On ne l'entend pas beaucoup, Stephen Guilbeault, ces jours-ci. Naturellement, son patron fait face à tout un ressac. Il est mieux de laisser parler Mark Miller. Mais franchement, là, c'est très, très dur à suivre de la part de M. Trudeau.
Mais si tu regardes ça dans la perspective suivante, là, tu dis, OK, moi, je suis le premier ministre du Canada, là. J'ai fait un deal global avec une partie des Indiens de ce coin-là pour passer le pipeline, OK, ou l'oléoduc. J'en ai une autre gang qui ne veut pas. S'ajoute à ces gens-là des militants environnementaux, puis toutes sortes de monde qui ne sont pas les autochtones, là, mais qui se greffent à ça. Avec qui je négocie, avec qui j'ai une entente, puis qui va... Autrement dit, là, c'est qui mon interlocuteur qui va être valable pour m'assurer que ça va pas recommencer 24 heures plus tard.
Une chose certaine, c'est que si tu es le premier ministre du Canada, il faut que tu démontres une certaine force. Et là, tout ce qu'on entend, puis j'utilise l'expression des bois verts, là, c'est des mantras bouddhistes. Okay? Il se présente là, il convoque le Parlement hier pour une session d'urgence, puis il dit rien. Il dit juste, on va prendre notre temps, le Canada, il n'a pas été bâti en une demi-heure. C'est pas tout à fait ça qu'il a dit, là, mais c'est à peu près ça que ça veut dire. Alors, à un moment donné, il faut que tu sois capable d'arriver avec des solutions, puis je ne suis pas certain qu'on fait face aujourd'hui à un grand leader à tout point de vue. Alors, ça augure très, très mal pour le leadership de M. Trudeau pour les prochaines élections.
Plusieurs éléments à énoncer pour comprendre M. Trudeau. Je ne dis pas qu'il faut le comprendre pour lui pardonner, là, mais juste comment ça marche dans sa tête. Premièrement, il est allé chercher plusieurs votes qui étaient au NPD et au Vert en Colombie-Britannique en faisant une proclamation, en faisant un deal, en disant qu'il allait faire une loi qui s'appelait la loi sur la réconciliation, une mission et sur la réconciliation, et qu'il allait reconnaître les droits territoriaux des Autochtones. Ça, il faut comprendre ça, la première chose. La deuxième chose, c'est que là, il y a Caroline Bennett qui est la responsable de son ministère des Affaires autochtones. Avant, c'était Leblanc, mais juste avant, c'était Jane Philpott qui est partie en claquant à la porte. Puis, lui est allé chercher qui d'autre? Il est allé chercher Wilson Raybould, qui est une Autochtone de Colombie-Britannique. Si trois fois, il met à la porte des femmes qui ont été porteurs du dossier autochtone ou qui sont autochtones en ligne, c'est sûr qu'à l'interne, il y a peut-être aussi des choses qui sont en train de se passer, là, des rapports de force. Peut-être que Caroline Bennett a dit « tu ne me passeras pas par-dessus ». Il y a eu hier une manifestation à Toronto de plusieurs centaines de personnes. Il y en avait eu à l'Université McGill la veille. On peut penser que dans les universités anglophones où la question des Autochtones est très forte, on peut penser que c'est l'électorat de Trudeau que ça va faire des grosses pressions. Il y a l'international aussi. On l'a vu avec l'article malheureux et
c'est l'électorat
caricatural du Figaro, ouais. Tu sais, ouais. Mais ça témoigne quand
les
même
Mohawks sur le guet de guerre.
Ouais, oui, c'est ça, les Mohawks, les dangereux guerriers Mohawks. Mais d'ailleurs, en parlant des dangereux guerriers Mohawks, là, ouais. J'ouvre une parenthèse, le fun. Tu sais, les gens ont pensé qu'il y avait juste deux abris tempo puis deux chaises de pique-nique qui bloquaient la voie ferrée à, c'est quoi le nom de Chinnagana?
L'autre,
ouais. Ouais, à Belleville. Là. Un instant, c'est pas comme ça pendant tous les lieux physiques. Là. Les lieux physiques, c'est que les Mohawks ferment la route qui mène à la réserve. Puis je vais te dire, il n'y a pas personne qui est allé au blocus en Bixi ou en transport en commun. Là. C'est tous des F-150 puis des Hummers qui sont garés là. Ils n'ont pas l'air sympathiques, trop les gens qui bloquent la route. Et le blocage de la voie ferrée est au sein de la communauté autochtone. Fait que il faudrait que tu démantèles de force le premier blocage et que tu rentres dans la communauté autochtone pour démanteler le deuxième blocage. C'est sûr, ça ferait du bruit partout, au Canada et à l'international.
Fait une pause et un retour. Est-ce qu'on doit aménager un stade de baseball sur le bassin Peel?